dans 10 minutes.
Juste après le journal. Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Toute l'info, bonjour Clotilde Dumais.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Alerte aérienne en Ukraine. Ce matin, Kiev assure que la Russie est en train de lancer une attaque de missiles. Nous serons en direct sur place dans un instant. 6 personnes tuées ce matin au sud de Beyrouth, au Liban. L'armée israélienne poursuit ses frappes. Et pourtant, professeurs et élèves continuent l'école malgré la guerre. Reportage dans ce journal. Et puis c'est une décision importante. Un sous-traitant de l'armée américaine reconnu coupable de torture et condamné à verser des millions de dollars à d'anciens détenus de la prison d'Abu Ghraib en Irak. Comme chaque nuit depuis septembre, les Ukrainiens se réveillent donc sous les explosions après une nouvelle attaque aérienne russe d'ampleur. La nuit dernière, déjà, Kiev a été particulièrement visée par des missiles et des drones. Emmanuel Chasse, vous êtes sur place en direct pour RFI. Quelle est la situation pour l'instant, Emmanuel ?
Oui, alors c'est un nouveau réveil sous les explosions pour les habitants de la capitale ukrainienne. Ce matin, Kiev et le reste du pays ont été attaqués avec au moins 6 missiles aériens et balistiques, dont des missiles Iskander, ainsi qu'avec 90 drones, rapporte la défense ukrainienne. À Kiev, un homme a été blessé, un entrepôt a pris feu dans la banlieue de la capitale et le maire de la ville, Vitali Klitschko, a averti que des coupures de courant pourraient être mises en place de façon préventive en raison de ces frappes. Je rappelle que le système énergétique du pays a été lourdement endommagé par les frappes russes qui tente de rendre l'Ukraine tout simplement invivable pour sa population. Et depuis 2 mois, en plus de son agression terrestre, la Russie attaque l'Ukraine quotidiennement par vagues de drones kamikazes, Moscou utilisant ces attaques pour épuiser la défense antiaérienne ukrainienne et ensuite frapper. Et c'est un grand sujet d'inquiétude ici, le pays et la capitale à l'aide de missiles qui, eux, sont plus difficiles à arrêter et aussi plus destructeurs.
Emmanuel Chasse, correspondante de RFI en direct de Kiev, et pour tenter d'accélérer l'aide à l'Ukraine dans sa guerre contre Moscou, le chef de la diplomatie américaine est à Bruxelles. Aujourd'hui, Anthony Blinken va rencontrer les responsables de l'OTAN et de l'Union européenne. Il estime ce matin que l'engagement de soldats nord-coréens aux côtés des Russes exige une réponse ferme. Washington a confirmé qu'ils étaient en train de mener conjointement des opérations de combat dans la région de Koursk. L'armée israélienne appelle à évacuer plusieurs zones du sud de Beyrouth au Liban. Au moins 6 personnes ont été tuées ce matin selon le ministère de la Santé libanais qui annonçait aussi 33 morts pour hier. La guerre continue donc entre Israël et le Hezbollah. Et malgré tout, l'école a repris la semaine dernière dans les établissements publics. Dans le quartier de Hamra à Beyrouth, une école fermée depuis plusieurs années sert désormais de lieu d'accueil à des familles déplacées. Leurs enfants y ont cours avec les moyens du bord. Reportage des envoyés spéciaux de RFI Muriel Paradon et Julien Boileau.
Dans le sous-sol d'une école qui accueille des déplacés, des enfants âgés de 10 à 13 ans sont assis en rond sur des chaises en plastique. Ils suivent un cours d'anglais plongé dans le noir. Il n'y a pas d'électricité ce jour-là, mais ils n'ont pas l'air d'y prêter attention. Anan, professeure depuis 25 ans, est elle-même réfugiée. Elle vient du sud Liban.
Depuis qu'on est arrivé ici, on a pensé à faire quelque chose pour les enfants parce qu'ils sont stressés. C'est très important. Les enfants ont tout oublié. Certains qui viennent du sud n'ont pas eu d'école depuis un an.
Certains enfants sont aussi affectés psychologiquement par la guerre, nous confie Yara, une autre enseignante qui habite Beyrouth.
L'un de ses enfants était très agressif. Je lui ai demandé « Pourquoi tu tapes ton voisin ?» Il est resté muet. Mais si vous cherchez bien, vous pouvez découvrir pourquoi. J'espère qu'avec le temps, il va s'en sortir.
Les cours dispensés avec les moyens du bord sont aussi l'occasion pour les enfants de pouvoir échanger, comme explique Sarah, une autre professeure.
Nous avons développé des liens très forts avec eux. Beaucoup d'émotions. Ce groupe, c'est comme une petite famille. Ils sont heureux de venir et ont envie d'apprendre. C'est ce qui nous motive pour venir au quotidien.
Comme ses collègues, Sarah est bénévole. Elle dit appréhender le moment où il faudra quitter ses élèves auxquels elle s'est attachée. Mais ce sera une fois la guerre terminée. Muriel Paradon, Julien Boileau, Beyrouth, RFI.
Donald Trump attendu à la Maison Blanche aujourd'hui. Joe Biden va recevoir son prédécesseur et son successeur dans le bureau ovale pour entamer la transition avant la prestation de serment de Donald Trump le 20 janvier prochain. Le président élu qui est en train de constituer sa future équipe avec plusieurs nominations encore annoncées hier, notamment celle d'Elon Musk, le milliardaire, va être en charge d'un ministère de l'efficacité gouvernementale qu'il partagera avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Le jury américain a tranché. Le sous-traitant de l'armée américaine, Cassie, a été jugé responsable pour le rôle qu'il a joué dans les actes de torture ou de traitements inhumains et cruels infligés à des milliers d'Irakiens dans la prison d'Abu Ghraib en Irak. L'entreprise privée devra verser 42 millions de dollars aux trois victimes irakiennes parties civiles dans ce procès. Correspondance à Bagdad de Marie-Charlotte Roupi.
Nous avons décroché une grande victoire, particulièrement parce que cette victoire arrive après 16 ans d'attente.
En conférence de presse, Salah El-Ejaili, l'un des plaignants irakiens, cherche ces mots.
Enfin, nous voyons une justice pour quelques victimes d'Abu Ghraib.
C'est une première. Depuis le 11 septembre 2001, aucune procédure judiciaire contre un sous-traitant militaire américain n'avait abouti à une condamnation. Catherine Gallagher, avocate du Centre américain des droits constitutionnels qui a porté le dossier, évoque un jour historique.
Je pense que ce dossier envoie un message clair aux entreprises et aux sous-traitants du gouvernement en particulier qu'ils peuvent être et seront tenus pour responsables de toute violation de la loi.
Cette condamnation crée donc un précédent. À Abu Ghraib, en Irak, Shaker Horan, chef de la tribu de l'un des plaignants, est abasourdi.
La plupart des gens n'y croyaient pas. Personne ne pensait que ce dossier allait aboutir. Bien sûr, beaucoup de gens vont essayer de mener des actions en justice.
Le sous-traitant militaire condamné peut encore faire appel, mais 21 ans après les révélations choquantes des tortures infligées aux prisonniers irakiens, ici, c'est déjà une victoire immense. Marie-Charles Troupi, Bagdad RFI.
En Libye, les habitants de la ville de Zintan ont fermé le robinet de pétrole hier. Ils ont protesté contre l'enlèvement la semaine dernière du général de brigade Mustapha Al-Waishi. Le sort de ce responsable originaire de Zintan est toujours inconnu. Personne n'a revendiqué cet enlèvement. Mais dans sa ville, on tient pour responsable le gouvernement et le conseil présidentiel. Explication Ouda Ibrahim.
Ce mardi, un grand nombre de véhicules armés se sont rassemblés à l'intérieur de la ville de Zintan. D'autres se sont rendus sur le site de Rayaina en renfort aux manifestants en colère qui ont fermé la vanne reliant les champs pétroliers du sud-ouest à la raffinerie de Zaouia à 45 km à l'ouest de Tripoli. Environ 350 000 barils de pétrole brut par jour, soit un tiers de la production libyenne, sont acheminés vers cette raffinerie avant de prendre la direction de l'Italie. Les protestataires exigeaient la libération immédiate de l'officier Mustapha Al-Waishi et menaçaient de mener de nouvelles actions si leur officier n'est pas libéré. Des membres des services du renseignement ont condamné l'enlèvement, affirmant dans un communiqué que cela s'inscrit dans un contexte d'enquête en cours sur plusieurs affaires liées à des incidents affectant la sécurité nationale libyenne. Les milices en Libye ont pour habitude d'enlever des fonctionnaires judiciaires, des parlementaires, des responsables sécuritaires ou des banquiers. Une sorte d'intimidation pour qu'ils cessent d'enquêter sur les affaires de corruption impliquant des membres des milices ou des personnalités qui leur sont proches.
Ouda Ibrahim, à Bruxelles, les eurodéputés ont auditionné un à un les candidats à la Commission européenne. 20 d'entre eux ont passé leur grand oral la semaine dernière avant les 6 potentiels futurs vice-présidents hier. Certains s'en sont plutôt bien sortis, Pierre Benazet, mais d'autres un peu moins.
Les auditions de ce mardi ont été positives pour l'ancienne première ministre lettonne Kaja Kallas, candidate au poste de chef de la diplomatie européenne. Deux candidats s'en sont un peu moins bien sortis. C'est surtout le cas de Raffaele Fitto, fortement attaqué par les écologistes pour son appartenance au parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, classé très à droite. Vient ensuite le français Stéphane Séjourné, armé d'un maigre bagage en matière de compétences économiques pour le portefeuille qu'il brigue. Mais il n'a cependant pas été la cible d'attaque des socialistes, signe que ce parti va jouer le jeu de la coalition avec les centristes de Renew et le centre droit du PPE. Il reste qu'on est désormais entré dans ce que certains appellent ici l'équilibre de la terreur. Dans l'ensemble, il n'est plus question de compétences. Les partis craignent de refuser le candidat d'une autre formation de peur que l'un des leurs soit récusé par rétorsion. La réponse n'est pas pour tout de suite car les réunions des commissions qui doivent décider ou non de donner leur aval ont été repoussées à ce mercredi au plus tôt. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et puis les agriculteurs français prêts à se remobiliser. Le patron du principal syndicat agricole lance un appel à la mobilisation nationale dès lundi prochain. Ce sera au moment du G20 au Brésil. Il est 10h10 à Paris, la suite sur RFI. C'est Priorité Santé avec Caroline Paré.
Merci beaucoup, Clotilde Dumay.